Voix étudiante, une mini-série du balado Adaptation qui donne la parole aux membres étudiants du groupe de recherche et d'intervention sur les adaptations sociales de l'enfance de l'Université de Sherbrooke. Bienvenue au quatrième épisode du balado Voix étudiante. Je suis votre animatrice, Sonia Anvar, et aujourd'hui, je reçois Audrey Mariamo, qui est étudiante au doctorat en psychologie du counseling à l'Université McGill et membre étudiante de la chaire de recherche du Canada sur la stigmatisation et le développement psychosocial, dirigée par Alexa Martin-Story. Dans cet épisode, on va parler de sextage chez les jeunes personnes adolescentes. Avec Audrey, on discute notamment des formes non consensuelles de sextage, de leurs conséquences, puis de la façon dont les normes sociales, les pairs puis les habitudes numériques façonnent différents profils de sextage. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Audrey, merci d'être avec moi aujourd'hui. Je suis contente de te recevoir au micro de Voix étudiante pour parler de sextage. J'ai appris plein de choses en me préparant pour cet épisode-là, donc je pense que ça va bien intéresser nos auditrices, nos auditeurs.
J'espère bien. Merci beaucoup à toi, Sonia. Ça me fait plaisir d'être ici.
Donc, toi, tu es présentement étudiante au doctorat en psychologie du counseling à l'Université McGill. Pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, de ce que c'est d'ailleurs comme discipline la psychologie du counseling?
Oui, bien sûr. Mais dans le fond, j'ai fait mon baccalauréat en psychologie à Concordia, puis ensuite, je suis rentrée dans la maîtrise en psychologie du counseling à McGill. Et en fait, puis depuis, bien sûr que j'ai continué dans ce programme-là. Je dirais que c'est vraiment la différence principale entre la psychologie du counseling puis la psychologie clinique. C'est pas nécessairement dans les compétences qu'on aura en tant que psychologue, donc on s'entend qu'à la fin on est tous psychologues, mais c'est plus dans la façon, je dirais qu'on est formé. On a un peu plus d'emphase sur des contextes scolaires, pas nécessairement plus que ceux dans la psychologie clinique, mais il y a plus de gens qui souhaitent travailler avec les enfants, peut-être qui se retrouvent dans ces programmes-là, dans des contextes scolaires aussi, mais aussi ceux qui voulaient faire plus de travail autour de l'orientation, donc du career counseling aussi. Ouais, donc la maîtrise que j'avais faite, en fait, c'est un programme qui n'existe plus, mais c'est vraiment pour ça, pour faire partie de l'Ordre des conseillers puis conseillères du Québec.
OK. Puis, qu'est-ce qui t'a amené vers cette discipline-là, vers la psychologie du counseling, puis la recherche qui touche plus spécifiquement les jeunes?
Oui, puis en fait, le programme m'a intéressée parce qu'il y a beaucoup de cours qui portent sur, je dirais, l'importance de la culture, de la diversité. Il y a beaucoup... il y a une approche un peu plus humaniste dans la formation. Puis que dans les programmes cliniques, on voit un peu plus de... je dirais pas nécessairement que c'est très, très médical, mais la façon qu'on est formé dans ces programmes-là, c'est un peu plus médical que ce qu'on voit dans mon programme, d'après ce que j'entends. Puis donc, c'est vraiment ça qui m'a intéressé, ce côté un peu plus humaniste. et c'est pour ce qui est de ma recherche, en fait, pendant ma maîtrise, vu que c'est un programme vraiment de profil stage, puis pas de profil recherche, je voulais quand même garder mes portes ouvertes pour le doctorat. Donc, j'ai participé à une étude, en fait, sous la direction de Dr. Caroline Kemchev, avec le Tech 3 Lab de l'HEC. Puis, on voulait vraiment voir comment est-ce que les ados interagissent avec un chatbot pour la santé mentale. Et en fait, c'est après ce projet-là que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la technologie, mais vraiment comment les jeunes utilisent la technologie, puis aussi les enjeux de la santé mentale dans tout ça.
OK, donc c'est à partir de ce projet-là que tu t'es intéressée à ton sujet de doctorat, j'imagine. Donc, qui est le... Je dis le sextage, est-ce que c'est le bon terme en français? En anglais, on va dire sexting?
Oui, je dirais qu'en français, on voit sextage, on voit aussi sexting.
OK.
Ouais, on voit un peu de tout, mais je dirais, ouais, sextage et sexting.
Ben, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de ton projet de recherche doctorale. Donc, bon, tu t'intéresses au sextage chez les jeunes personnes adolescentes. Donc, pour commencer avec la base, qu'est-ce que c'est le sextage? Comment toi, est-ce que tu le définis dans tes travaux?
Ouais, c'est une très bonne question. Moi, comment je définis, en fait, c'est le fait d'envoyer, de recevoir ou de transférer des messages, textes ou des images ou des vidéos à caractère sexuel via des plateformes numériques. Donc, ça, c'est vraiment la définition que j'utilise. Mais la définition varie beaucoup d'une étude à l'autre. Donc, c'est sûr que il y a des études qui utilisent des définitions très larges et d'autres qui utilisent des définitions un peu plus restrictives. Et c'est sûr qu'il y a des avantages et des désavantages pour chaque type de définition.
Puis j'imagine que vu l'environnement numérique qui est en constante évolution, c'est probablement une définition qui est appelée à se réinventer aussi avec le temps.
Oui, exactement, exactement. On voit que avec des c'est avec les applications numériques qui se développent aussi au fil du temps, on voit qu'il y a des projets de recherche qui nomment aussi les plateformes à travers lesquelles les sextos sont envoyés ou échangés dans certaines études. Donc, par exemple, comme Snapchat, on commence à voir ça. Tandis qu'avant, on voyait vraiment des exemples comme des sextos qui sont envoyés par courriel. Mais là, je pense que ça se fait pas trop de nos jours, certainement avec les jeunes, je pense que Snapchat, c'est probablement une plateforme plus populaire.
Oui, plus que les courriels, oui, probablement.
Ouais. Ouais.
Ben avant qu'on plonge là, dans tes travaux, je voulais juste faire une petite mise en contexte, quelques statistiques, là, puis n'hésite pas à me corriger si je me trompe. Donc, les études démontrent qu'entre 15 et 38 % des personnes adolescentes ont déjà envoyé un sexto, puis qu'entre 27 et 41 % en ont déjà reçu. Puis on sait aussi qu'environ 12 à 15 % des jeunes ont déjà partagé un sexto sans consentement et que 7 à 8 % ont déjà eu un contenu intime qui a été partagé à leur insu. Donc, on parle d'un contenu qui aurait été transféré sans que cette personne-là le sache. Plus, ce sont des formes non consensuelles, puis ces formes-là préoccupent plus parce que, bon, elles s'apparentent à une forme de violence sexuelle en ligne avec des conséquences psychologiques, sociales, relationnelles et même légales. Donc, c'est un peu de ces choses-là qu'on va discuter ensemble aujourd'hui. Fait que j'aimerais ça qu'on revienne sur, ben en fait, qu'on commence avec cet aspect-là du consentement parce que, bon, on en a énormément parlé, on en parle encore beaucoup, mais peut-être un peu moins en lien avec le sextage. Hein. J'ai l'impression que c'est peut-être un des angles morts des discussions sur le consentement en ce moment, les sextos.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que justement, quand on regarde aussi les définitions et les mesures du sextage dans les études, on voit peu de d'emphase en fait sur le consentement. Je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas. Il y a certainement des études qui vont aller poser des questions spécifiques par rapport au consentement, mais le consentement joue un rôle central dans le sextage. Ça change complètement la nature du comportement puis les implications aussi du sextage. Donc, c'est vraiment le consentement qui peut déterminer si un sexto est normatif ou risqué ou même s'il représente une forme de violence sexuelle. Donc, ouais. Puis les motivations puis les conséquences peuvent vraiment différer selon ouais, le
Puis
consentement.
c'est quoi justement les conséquences ou les risques là, du sextage non consensuel, autant pour la personne qui va l'envoyer que pour la personne qui le reçoit?
Oui, c'est une très bonne question. C'est sûr que quand on parle de comportement non consensuel, il y a plus de risques. C'est sûr qu'on parle du sextage qui peut être forcé ou on parle aussi de la transmission de sextos. Donc, c'est sûr qu'il y a des risques au niveau de la réputation, au niveau juridique aussi.
Excuse, je reviens. Quand tu dis transmission, ça voudrait dire de transférer là, vers une autre personne, c'est ça? OK.
Exactement, exactement. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on appelle le forwarding en anglais. C'est sûr que oui, il y a des risques pour le jeune qui reçoit ce genre de sexto-là, mais aussi le jeune qui va envoyer des sextos de façon non consensuelle ou non volontaire. Donc, ça peut être au niveau de la réputation, au niveau des relations avec les pères, ça peut être aussi au niveau de la santé mentale, bien sûr, Si on envoie un sexto qui se fait transmettre, ben c'est sûr que ça peut mener à de la détresse psychologique. Et oui, aussi malheureusement, il peut avoir des risques pour dans le contexte légal aussi pour l'expéditeur et le destinataire aussi.
Puis est-ce que c'est des choses qui sont quand même discutées? Est-ce que les jeunes sont au courant de ces conséquences-là, le sais-tu?
Oui, en fait, je sais que souvent les conversations autour du sexting se font vraiment dans le contexte de la loi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'emphase sur la loi puis les conséquences légales. En fait, j'avais fait une étude qui n'est pas dans ma thèse, mais qui portait en fait sur la compréhension et les connaissances du texting chez les jeunes filles âgées de 12 à 13 ans. Et ce qu'elles nous ont dit, en fait, c'est que souvent, c'était des policiers qui venaient à l'école leur parler du sextage. Et donc, il n'y avait pas vraiment de conversation autour du sextage dans des contextes émotionnels, psychologiques, relationnels. C'était vraiment l'aspect légal.
L'aspect légal. OK. Donc, il y a des interventions dans les écoles, possiblement secondaires, avec une personne du corps policier, là, qui. OK.
Exactement.
Là, j'ai l'impression qu'on a peut-être démarré la discussion en pathologisant peut-être un peu d'emblée le sextage. Là, tu sais, on parle un peu des conséquences négatives, mais aussi, comme tu nommais tantôt, il y a un aspect normatif. Donc, ça peut faire tout simplement partie du développement sexuel sain, normal des jeunes. Est-ce qu'il y a quand même certains bienfaits au sextage?
Oui, bien sûr, il peut avoir plusieurs bienfaits. Et en fait, je dirais que ça dépend vraiment du contexte et le consentement, encore une fois, vient jouer un rôle important dans tout ça. Donc, quand le sextage se fait, par exemple, dans le contexte d'un couple entre deux jeunes qui consentent vraiment à l'échange des sextos, on peut voir qu'il y a des conséquences positives pour ces jeunes-là. Donc, ça peut emmener à une meilleure communication, une meilleure confiance dans le couple, plus d'intimité aussi, et une exploration sexuelle qui est sécuritaire pour le jeune. Et en fait, on voit que ce genre de sextage ne mène pas nécessairement à des conséquences négatives comme la détresse psychologique comparée aux comportements qui sont non consensuels.
OK, donc le consentement est pas mal au cœur de la conversation, là.
Oui. Et le contexte aussi, ben, tu sais, quand on parle du partenaire, avec qui est-ce qu'on échange ce genre de matériaux?
Tout à fait. Là, bon, t'es au doctorat, t'es à ta combienième année de doctorat?
Là, je suis dans ma cinquième année
Cinquième
et
année, OK.
dernière, la
Cinquième
dernière.
et dernière. Bon, tu as déjà publié un premier article de thèse sur ton sujet, donc qui portait sur le lien entre les troubles de conduite dans l'enfance puis le sextage à l'adolescence. Pourquoi t'intéresser aux troubles de conduite dans le contexte du sextage?
C'est une bonne question. C'est sûr que c'est quand même très, très spécifique comme projet de recherche. Mais pourquoi est-ce que je l'ai choisi? En fait, c'est que j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de recherches sur les comportements de sexting chez les jeunes en général et qu'on se concentre vraiment beaucoup sur les conséquences du sexting. Mais il y a beaucoup moins de recherches sur les antécédents de ce comportement et encore moins de recherches sur ce comportement dans les populations à risque, donc les jeunes qui sont plus vulnérables à des conséquences négatives. Spécifiquement aussi quand on parle de comportement sexuel en général, on voit que les jeunes qui ont des troubles de conduite sont particulièrement vulnérables à s'engager dans ces comportements sexuels à risque, mais aussi à subir des conséquences négatives comme la victimisation.
Donc là, toi, bon, c'est ça, tu as mené une étude qu'on dit prospective, donc tu t'intéressais peut-être à déceler des prédicteurs de
Exact.
comportements de sextage. Peux-tu nous résumer un peu ce que les résultats de la recherche à date?
Bien sûr, oui. Donc, dans le fond, pour ma première étude, c'est ça, la question, c'était vraiment est-ce que les troubles du comportement en enfance sont liés au sexting dans l'adolescence, mais aussi on regardait les troubles de comportement à l'adolescence également. Donc, on était curieux de voir s'il y avait une différence à ce niveau-là. Puis, on regardait vraiment les comportements de sextage, donc vraiment l'envoi, la réception et la transmission de sextos, ainsi que la réception de sextos qui ont été transférés. Et ce qu'on a vu, c'est que les filles, donc, en fait, je vais recommencer là pour le résumer
Oui, vas-y.
de façon plus claire, là, mais dans le fond, les troubles de comportement ont été liés au sexting chez les garçons et les filles en adolescence, mais de façon plus marquée chez les filles. Donc, ce lien-là était plus fort chez les filles. Quand on remonte à l'enfance, on a vu que les filles avec les troubles de comportement précoces étaient plus susceptibles à envoyer des sextos, d'en recevoir et même de recevoir des sextos transférés. Par contre, chez les garçons, ce lien-là n'était pas présent. Donc ça, c'était intéressant de voir la différence entre les garçons puis les filles.
Donc, c'était un plus fort prédicteur chez les filles. Est-ce que
Exact.
vous avez des hypothèses sur le pourquoi?
Oui, donc c'est sûr que ce qu'on voit chez les filles, c'est que elles vivent plus souvent des défis relationnels. Les filles avec les problèmes de conduite ou de comportement, ce qu'on voit aussi, c'est qu'elles fréquentent souvent des pères plus âgés ou ont peut-être des relations romantiques avec des jeunes un peu plus âgés, entrent aussi plus tôt en relation amoureuse et sont peut-être plus exposés aussi à l'attention sexuelle ou même l'harcèlement sexuel. Donc, ce qui peut arriver, c'est que ça peut créer des occasions de sexting qu'on voit un peu plus souvent chez ces filles-là que peut-être chez les filles sans problème de comportement. Puis pour les garçons, tu sais, ce qu'on voit, c'est vraiment qu'il y a un lien qui est surtout lié à la réception de sexo, qui n'est pas nécessairement surprenant. Je pense que peut-être que les garçons se retrouvent dans des contextes où il y a vraiment comme des échanges de sexo entre les pairs ou comme il y a une circulation de sexo ou de matériel sexuel.
Ouais, dans des contextes plus fréquemment que les filles où il y aurait
Ouais.
peut-être moins ces échanges-là entre elles. OK.
Ouais.
Puis là, on a parlé de. Ben, en fait, moi, j'ai utilisé le terme trouble de conduite. Toi, tu as parlé de trouble de comportement. Je crois qu'on parle de la même chose.
Oui.
Pourrais-tu le définir un peu? Parce que ça reste, en tout cas pour moi, ça reste un peu vague. Qu'est-ce que ça inclut, là, les troubles des conduites ou des comportements chez les filles comme chez les garçons?
Oui, c'est une très bonne question. En fait, il s'agit simplement d'un ensemble de comportements persistants qui enfreignent les droits des autres ou les normes sociales. Donc, on parle de comportements oppositionnels. Comme l'argumentation, le fait de désobéir souvent les adultes. Ça peut aller aussi jusqu'à des actes antisociaux qui sont plus graves, comme l'agression ou le vandalisme. Et on voit aussi que l'âge d'apparition de ces comportements-là est très important. Les troubles de comportement qui apparaissent avant l'âge de 10 ans sont liés à des trajectoires plus chroniques et plus problématiques pour les jeunes, comparé aux troubles de comportement qu'on voit un peu plus qui commencent en adolescence, en fait. Oui.
Puis quelle implication tu vois au niveau de la prévention ou de l'intervention auprès des jeunes maintenant qu'il y a un peu ce lien-là qui a été établi?
Donc, tu veux dire que de prévention au
De
niveau des.
comportement un peu
Ouais.
risqué face au sextage?
Ah, oh, OK. Donc, s'il y en a déjà, s'il y a déjà de la prévention qui se fait.
Oui, s'il y en a ou si
Ouais.
tu vois des possibilités là, d'intervenir pour peut-être prévenir ces types de comportements-là?
Ouais, ben, je pense que c'est vraiment ça C'est cette question-là, en fait, qui guide vraiment ma recherche, c'est de voir est-ce qu'au niveau clinique, au niveau de prévention puis d'intervention, est-ce qu'il y aurait des implications différentes pour ces jeunes-là? Je pense que en général, quand on parle de prévention ou d'intervention au niveau du sexage, on parle de régulation émotionnelle, on parle de aussi, je dirais. Encore une fois, j'oublie le mot, mais non, agency, en fait, encore une fois. Si on
Oui,
parle
ben oui, agentivité.
agentivité, c'est ça. Donc, l'agentivité et l'empathie, puis vraiment, c'est ce qu'on veut aller vraiment.
Soutenir?
Ouais, c'est ce qu'on veut soutenir. Ben, c'est ça, je m'excuse, je suis vraiment comme,
Non, non, prends le temps de
je
trouver
perds
les
mes
mots, il n'y a
mots,
pas
là,
de
mais dans le
problème.
fond, c'est quelque chose qu'on veut soutenir chez les jeunes en général, mais je pense encore plus chez les jeunes avec des problèmes de
Ouais.
comportement. Donc, c'est comme, est-ce que la façon qu'on va aller faire cette prévention-là ou cette intervention-là va être très différente de la façon qu'on le fait pour les jeunes sans problème de comportement. C'est une question que je me pose toujours, puis je suis pas encore certaine d'avoir la réponse, mais ouais, je suis curieuse de voir
Ouais,
si j'aurais un peu plus d'idées
bien
avec
intéressant. Oui,
ouais.
oui, oui. En préparant sur l'épisode, pour l'épisode, pardon, je suis tombée sur une campagne de sensibilisation du gouvernement du Canada qui s'appelle Les dangers en ligne, le sextage et la sextorsion. Puis il y avait une petite capsule destinée aux jeunes que j'ai écoutée, puis j'ai quand même été surprise par le ton. Donc, la capsule met surtout l'accent sur le fait de faire attention avant d'envoyer des photos, puis sur les risques pour la réputation ou pour l'employabilité plus tard, là, d'avoir des sextos qui circulent dans l'environnement numérique. Mais dans la capsule, on parle presque pas du fait que partager un sexto sans consentement, ben, ça peut être une forme de violence sexuelle. Puis le fait qu'on devrait éviter d'envoyer des sextos non sollicités, puis ça m'a comme un peu rappelé les discours de victim blaming en anglais, donc de blâme de la victime qu'on entend souvent, par exemple, les discours qui disent aux filles ou aux femmes de faire attention à leurs vêtements ou de toujours surveiller leur verre au bar, au lieu de peut-être adresser les comportements problématiques comme celui de mettre de la drogue dans le verre d'une femme ou d'une personne. Puis ça m'a fait monter la question, est-ce que dans les campagnes de prévention sur le sextage, on n'est pas à risque des fois de retomber dans ces mêmes dynamiques-là de blâme de la victime?
Oui, bien sûr, c'est un grand risque. Puis je pense que c'est simplement aussi parce que le sexting, c'est vraiment une extension du comportement sexuel. C'est pas totalement différent. Du comportement sexuel, c'est simplement un comportement sexuel ou une communication sexuelle qui se fait à travers les plateformes numériques. Donc oui, il y a ce risque, puis c'est quelque chose qu'on voit aussi dans les recherches qualitatives, que les filles parlent souvent des différences entre les filles et les garçons quand on parle pas juste du comportement, mais aussi des conséquences, puis justement de la sensibilisation, tout ce qui est prévention, intervention, qu'il y a beaucoup plus de d'emphase sur les filles que sur les garçons. Malgré le fait que les filles aussi peuvent transmettre des sextos ou c'est ça, donc ou s'engager justement dans des comportements non consensuels. Et oui, c'est vraiment pas la meilleure façon d'aller chercher les jeunes. En fait, les jeunes aimeraient avoir des conversations ouvertes, sans jugement. Les jeunes veulent apprendre, c'est comment gérer les différentes situations qui pourraient arriver, en fait. Donc, encore une fois, dans ce projet-là que j'avais fait sur avec, en fait, les adolescentes de 12 et 13 ans, elles demandaient d'avoir des scénarios, puis de passer à travers des scénarios de sextage qui pourraient arriver, comme les conséquences négatives, puis qu'est-ce qu'elles pourraient faire ou qu'est-ce
Ah,
qu'elles
c'est
pourraient faire
intéressant.
pour les prévenir.
Ça
Donc,
revient à développer la gentilité dont tu parlais tantôt, là, d'avoir plein
exactement.
pouvoir sur ces comportements de sextage.
Exactement. Donc, ça revient vraiment à la littératie numérique, puis le fait d'aider les jeunes à utiliser et comprendre la technologie de façon sécuritaire, puis vraiment de comprendre comment évaluer les risques à travers plusieurs contextes. C'est pas juste dans tout ce qui est sexting, mais aussi simplement les réseaux sociaux. Puis comment est-ce qu'on s'engage avec la technologie, en fait? Puis les jeunes veulent apprendre comment le faire. Donc, c'est une éducation qui devrait se faire avec les parents et aussi les enseignants et de façon vraiment ouverte.
Ouais, donc de normaliser puis de rendre accessible ce type d'éducation-là. Ouais, c'est super intéressant. Là, on a discuté de ton premier article de thèse, mais je crois que tu as finalisé, tu me disais avoir en fait un article qui a été accepté, qui est une revue systématique des antécédents du sextage, si je me trompe pas. Donc, tu as cartographié un peu les facteurs de prédisposition de certaines jeunes à adopter des formes plus risquées de sextage. Peux-tu nous parler un peu des constats qui ressortent de ta revue systématique?
Oui, donc en fait, la revue systématique, le but de faire cette revue-là, je voudrais dire que c'est un peu différent de mon premier puis mon dernier article, par contre, parce qu'on se concentre pas vraiment sur les jeunes avec les ou les jeunes à risque, disons. Donc j'ai regardé vraiment les antécédents du sextage chez les jeunes en général. Puis il y a très peu d'études, en fait, qui sont sorties. On regardait vraiment les études longitudinales. Parce que, encore une fois, on a beaucoup d'études qui se concentrent sur les conséquences du sexting, mais on voulait comprendre qu'est-ce qui peut mener au sextage. Mais aussi, on voulait explorer comment est-ce que le sextage se définit à travers les études, puis dans le fond, comment est-ce que les chercheurs mesurent aussi le sextage. Puis on a vu énormément de différences. Donc, ça fait en sorte que ça devient
C'est plus
difficile de
complexe de sortir des
comparer.
constats,
Ouais,
ouais.
exactement. Ça a été vraiment difficile de comparer les résultats
Est-ce que
des.
c'est peut-être parce que la discipline est quand même relativement récente, les sextos? En fait, je dis ça, je ne sais pas depuis quand on s'envoie des sextos, mais ça ne doit pas dater de plus de 20 ans.
Oui, je pense que oui. Puis encore une fois, on le voit parfois dans la formulation des questions qui sont posées aux jeunes pour justement évaluer leur comportement de sextage. On voyait énormément de variabilité. Donc, il y avait certaines études qui regardaient vraiment un comportement, puis qui demandaient vraiment si les jeunes ont déjà, par exemple, envoyé un sexto dans leur vie. Et il y en avait d'autres qui voulaient regarder plusieurs comportements différents. Et aussi peut-être dans un temps un peu plus limité, donc dans les derniers 6 mois et dans la dernière année. Donc là, on a vraiment beaucoup de variabilité dans les définitions puis les mesures du sexting que je pense qui est en partie à cause du fait que c'est quand même nouveau et qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de questionnaires qui sont comme validés pour mesurer le sexting. Ouais.
OK. Puis là, c'est quoi pour toi les prochaines étapes de ta recherche doctorale?
Ouais, donc là, je travaille sur mon troisième et dernier article qui voulait en fait aller un peu plus loin que mon premier article. Donc, dans mon premier article, on regardait vraiment le lien entre les problèmes de comportement puis des types spécifiques de sexting, comme j'avais dit tantôt. Mais pour ma dernière étude, on voulait regarder plutôt les profils de jeunes, des profils de sextage, plutôt que des comportements isolés. Donc, on voulait regarder ça, ce lien entre les problèmes de comportement puis ces profils, mais aussi on voulait voir si la consommation problématique de substances et la dépression venaient jouer un rôle médiateur dans ce
OK.
lien-là.
Et là, t'en es à l'étape de la rédaction?
Exactement. Puis j'ai des résultats préliminaires, donc qui sont, moi, je pense qu'ils sont très intéressants. je peux les partager.
Ben oui, certainement.
Super. Dans le fond, ce qu'on a vu, puis encore, on a regardé la différence entre les garçons puis les filles. C'était quelque chose qu'on a continué à travers ma thèse. Mais dans le fond, chez les garçons, les troubles de comportement prédisaient surtout l'appartenance au profil des haute réception de non-partenaires. Donc, la réception de sexo de personnes qui n'étaient pas des partenaires
OK.
romantiques. Par contre, ça veut pas dire que c'est nécessairement des inconnus, mais ça peut être des amis, comme ça peut être aussi quelqu'un que le jeune connaît seulement en ligne, qu'il n'a jamais rencontré en personne. Et donc, il recevait plus souvent du contenu de ces individus-là, de non-partenaires. Mais pour les filles, les troubles de comportement étaient liés aux trois profils actifs de sextage qu'on a identifiés. Donc, un sexting qui était fréquent avec tous les partenaires, la réception élevée encore de non-partenaires, et aussi, dans le fond, un sexting qui était assez qui était vraiment assez souvent fait avec les partenaires romantiques.
OK.
Donc, c'est vraiment ces trois profils-là.
Donc, puis la dimension de l'envoi chez les filles était plus présente que chez les garçons?
Exactement, exactement. On voit que pour les garçons, il y avait plus de réception ou de justement d'appartenance au profil qui était caractérisé par la réception de sexo. Et quand on venait explorer un peu le rôle de la dépression puis la consommation, on voyait que, en fait, seule la consommation chez les garçons expliquait vraiment ou le lien, en fait, entre les troubles de comportement puis le sexting. Et pour les filles, on voyait que la dépression et la consommation venaient jouer un rôle. Ouais. Donc, encore une fois, j'ai l'impression que ça indique peut-être comme des risques un peu plus élevés chez les filles ou des filles qui sont peut-être plus susceptibles potentiellement à des conséquences négatives. Parce qu'encore une fois, je suis pas allée regarder les conséquences, puis je peux pas malheureusement non plus parler du consentement. C'est pas quelque chose qu'on a pu mesurer, mais ça reste que ça, qu'il y a des claires différences entre les garçons et les filles.
Oui, puis c'est ça, ça fait réfléchir aussi à la manière d'aborder ces sujets-là. Il y a peut-être une différence dans l'intervention qui est possible d'ajuster finalement les discours selon à qui on s'adresse, selon les risques et les conséquences liées à l'usage. Puis là, comment tu imagines la suite de ton parcours? Est-ce que tu souhaites continuer en recherche? Est-ce que tu penses t'en aller plus en clinique? As-tu des idées pour la suite? Là, 5 ans, ça approche de la fin.
Oui, c'est sûr que je pense vraiment beaucoup ces temps-ci. Je suis très, très passionnée par mon projet de recherche, mais je pense que je vais me concentrer un peu plus sur le travail clinique dans le secteur public.
OK. Ah, c'est super intéressant. OK. Puis, ben, pour terminer, à partir de tes travaux, est-ce qu'il y a des messages que tu considères qui seraient super importants à transmettre, soit au milieu scolaire, aux intervenants, aux parents, ou peut-être aux jeunes même directement, tu sais, s'il y a peut-être un constat, là, que tu souhaites que ces personnes-là puissent garder en tête?
Ouais, je pense que les jeunes ont besoin de soutien, ils ont besoin de formation. puis, ils ont besoin d'un dialogue ouvert sans honte, sans culpabilité, sans jugement. Et il faut pas nécessairement décourager le sexting chez les jeunes. Je pense que c'est pas réaliste. Les jeunes vont échanger des sextos. C'est inévitable. C'est pas pour tout le monde, mais c'est assez commun que là, ça fait partie de la réalité des jeunes. Et donc, il faut pouvoir simplement guider les jeunes sur un sextage qui est sécuritaire, t'sais, des comportements sécuritaires. Et donc, parler un peu de justement la protection de soi, le fait de de ne pas sauvegarder les sextos sur le cloud, par exemple, de pas sauvegarder les sextos des autres, les montrer aux autres, c'est de peut-être.
Un peu les bonnes pratiques finalement par rapport aux usages du sexting.
Exactement. Puis d'aider les jeunes à faire en sorte, en fait, à connaître la différence entre un sexting qui est fait de façon consentante puis non forcée, donc que c'est une décision prise avec confiance puis pour les bonnes raisons pour le jeune, et que en fait que les jeunes aient toujours un adulte qui peuvent faire
À qui en parler,
confiance.
ouais.
Ouais,
Ah, c'est
ouais.
intéressant, c'est des outils peut-être à pouvoir déceler soi-même son propre consentement, tu sais, où on en est par rapport à...
Ouais,
Ah, super
exactement.
intéressant. Ben, merci beaucoup, Audrey, d'avoir pris le temps de discuter avec moi. C'était super éclairant, puis je pense que c'est un épisode qui va offrir des nouvelles perspectives sur la question du sextage aux personnes auditrices puis aux auditeurs.
Merci à toi, Seigneur.
Si vous voulez en savoir plus sur la programmation de recherche du GRIZ, rendez-vous sur notre site web au www.grize.ca. Suivez-nous aussi sur Facebook et LinkedIn. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. À l'animation, à la recherche et à la production, Sonia Ambar, et au soutien technique, le studio Balado du service de soutien à la formation de l'Université de Sherbrooke.